Eh bien, frères et sœurs, c'est toujours une joie de pouvoir se plonger dans la parole et de pouvoir préparer un message. Ça demande du temps, mais c'est vraiment un privilège. Et je vais vous inviter maintenant à rentrer dans ce texte. Donc, comme vous le savez, nous sommes en lecture suivie de l'évangile de Marc. Abdel a terminé dimanche dernier le chapitre 10. Et donc, nous allons reprendre à partir du chapitre 11. Et il se trouve que c'est le texte de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, donc qui précède Pâques. Or, nous sommes 2 semaines après Pâques. Donc, je vous invite à un retour en arrière chronologique. Mais en fait, ce n'est pas plus mal, puisque on ne peut pas dissocier, comme nous allons le voir, ce récit de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, le lire en ayant en tête et en mémoire tout ce que nous avons déjà pu partager ces dernières semaines, c'est aussi une très bonne chose. Juste avant de lire le texte, je vous rappelle cette structure que je vous avais proposée déjà sur l'évangile de Marc, qu'on découpe souvent en 3 volets. Un premier volet, les chapitres 1 à 8, où ça se passe essentiellement en Galilée et où on découvre qui est Jésus. Volet 2, de chapitre 8 à 10, où on trouve Jésus essentiellement sur les routes, et où Jésus se révèle vraiment comme le Fils de Dieu. Et puis, le volet 3, chapitre 10 à 16, où cette fois-ci, ça se passe à Jérusalem, et donc, le texte que nous allons lire se trouve vraiment au début de ce troisième volet. C'est celui qui ouvre ce troisième volet. J'aurais dû mettre d'ailleurs, volet 3, c'est 11 à 16, une erreur là-dessus. Et où nous allons découvrir Jésus vraiment comme le roi. Alors, je vous propose de lire ensemble Marc 11, chapitre 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Alors, frères et sœurs, je crois que ce passage nous amène à méditer la façon dont Dieu agit et la façon dont Dieu conduit les choses. Et il y a ce passage d'Ésaïe qui m'est vraiment venu en tête en écho à ce passage. Donc dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Ça a l'air bête, mais je crois qu'on a souvent tendance à l'oublier ou à minimiser cette différence entre la vision de Dieu et notre vision à nous. Et une première grande différence, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et dans ce texte, nous voyons Jésus qui est enfin acclamé comme le Messie. Le peuple juif était dans l'attente depuis longtemps, et soyons honnêtes, quand on lit l'évangile, on aurait quand même aimé, enfin, c'est toujours la réflexion que je me fais, j'aurais aimé que Jésus soit plus direct, soit plus efficace dans sa campagne de communication, et qu'il se révèle plus explicitement plus tôt. Pourquoi attendre si longtemps ? Mais nous constatons que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu prend son temps, il ne précipite pas les choses, et au lieu de profiter d'une diffusion sur les réseaux sociaux de l'époque, nous avons au contraire vu Jésus imposer le silence à ceux qui le reconnaissaient. Donc ça, c'est dans le premier volet de Marc, c'est ce que j'ai mis à l'écran. Jésus, il impose le silence à plusieurs reprises. Déjà, aux démons et aux esprits impurs, à trois reprises. Chapitre 1, 25, chapitre 1, 34, chapitre 3, 12. J'ai mis les références à l'écran, je ne vais pas toutes les lire, mais Jésus impose le silence à ces esprits et ces démons qui le reconnaissent comme fils de Dieu et qui le verbalisent comme tel. Mais il impose aussi le silence aux nombreuses personnes qu'il guérit, aux lépreux de Capharnaüm, à Jaïros et toute sa famille dont il a fait revenir la fille de la mort à la vie. Il impose aussi le silence aux sourds-muets. C'est un peu ironique, mais le sourd-muet a retrouvé la parole. Hein. Donc, il prend des précautions pour pas que le miracle soit trop diffusé. Et puis aussi à l'aveugle de Bethsaïda. Tout ça, c'est dans la première partie du livre de Marc. Moi, je me dis que ces consignes de discrétion, elles ont dû être vraiment difficiles à entendre et à accepter par tous ces gens. Mettez-vous à leur place, ils ont assisté, ils ont vécu à des tels miracles. Comment tenir sa langue ? Comment garder ça pour soi ? C'est vraiment difficile. Et d'ailleurs, on voit à plusieurs reprises que cette consigne de Jésus ne va pas être suivie et qu'ils vont quand même parler. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure du selfie et d'Instagram, on aurait encore plus de difficultés à ne pas partager l'événement. Je vois déjà les gens guéris se prendre en photo avec Jésus et instantanément diffuser ça à la terre entière. C'est très difficile de garder le silence face aux merveilles de Dieu, et pourtant c'est ce que Jésus demande, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans ces premiers passages. Effectivement, Jésus, il n'a pas envie de passer pour un guérisseur, il n'a pas envie de passer pour un magicien ou pour un faiseur de miracles. C'est comme ça que Hérode le voyait. Hein. Hérode a entendu parler de ce faiseur de miracles. Jésus ne cherche pas à faire sensation. Il attend son heure, il sème des signes petit à petit qui dévoilent qui il est vraiment, au-delà de ce qu'on pourrait voir par l'apparence visible. Et il est intéressant de remarquer comment Jésus a répondu aux disciples de Jean-Baptiste. Alors là, je vais voir dans Matthieu. Matthieu au chapitre 11, les disciples de Jean-Baptiste viennent demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Ils ont un doute. Est-ce que c'est bien lui, le Messie ? Et Jésus leur répond « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » À travers ces paroles, Jésus fait une compilation de paroles du prophète Ésaïe, plusieurs passages qui sont regroupés en un seul. Et si vous observez bien le récit, et j'ai mis des couleurs pour vous guider, vous voyez que tout y est en fait, dans les miracles que Marc nous a racontés. Tout y est sauf le boiteux, mais le boiteux, en fait, le boiteux, il est quand même présent à travers le paralytique. C'est plus qu'un boiteux, c'est quelqu'un qui ne peut même plus bouger. Simplement, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que à lui, Jésus n'impose pas le silence. Mais on voit que à travers tous ces signes, tous ces miracles, en fait, Jésus se dévoile petit à petit. Et tout ça pointe clairement vers le fait que Jésus est le Messie. C'est vraiment la réponse qu'il donne à Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste se pose la question. Mais pour voir que Jésus est le Messie à travers tous ces signes, il ne faut pas rester scotché à un signe, un miracle, mais prendre du recul et voir le tableau d'ensemble. Donc ce n'est pas quelque chose d'immédiat et ce n'est sans doute pas quelque chose auquel les contemporains avaient forcément accès. Ils n'avaient pas tout vu. Alors dans le deuxième volet de l'évangile de Marc, la question de la messianité, du caractère messianique de Jésus, est beaucoup plus explicite, Mais là encore, c'est restreint, c'est seulement pour les disciples. Il y a déjà Jésus qui leur pose frontalement la question, « Pour vous, qui suis-je ? » Au dire des foules, « Qui suis-je ? » Répondez-vous, comment vous me percevez ? Et puis, il y a l'épisode de la Transfiguration, au chapitre 9, où là, Jésus se révèle vraiment dans une gloire étonnante et jamais vue auparavant. Mais là encore, à la Transfiguration, les disciples qui étaient témoins, Jésus leur demande de garder le silence par rapport à ça. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et pendant tous ces épisodes, toute cette longue marche de Jésus à travers la Galilée et dans auprès de toutes ces personnes, Jésus n'a pas cherché à faire de la pub. Mais il s'est quand même laissé trouver par ceux qui l'ont reconnu et ceux qui ont cru en lui. Il ne les a pas détrompés, à ceux qui le savaient, il leur a simplement demandé de la discrétion parce qu'il a attendu avant de se dévoiler vraiment au plus grand nombre. Donc il y a des raisons pratiques à ça, hein, comme le fait de ne pas devenir une attraction, je l'ai dit tout à l'heure, ou une curiosité pour les foules, et de pouvoir accessoirement continuer à se déplacer, hein, parce que quand vous avez des centaines de personnes en permanence autour de vous, ça rend les déplacements difficiles. Mais il y a aussi des raisons plus spirituelles, comme le fait de ne pas être accrédité par les démons, ça ferait mauvais genre. Mais la raison fondamentale, celle que Jésus donne à plusieurs reprises, c'est que son temps n'est pas encore venu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pour nous, comment on peut comprendre, comment on peut accepter qu'il faut parfois taire cette guérison ou cet épisode qui a changé notre vie et qui nous émerveille? C'est pourtant rendre gloire à Dieu que d'en rendre témoignage. Et pourtant, pas toujours, parce que témoigner à la mauvaise personne ou témoigner à une personne dont le cœur n'est pas disposé à entendre, c'est inutile, voire ça peut être un contre-témoignage par moment. À quoi bon semer si la terre n'a pas été préparée? Et ce qui est difficile aussi, c'est d'accepter que Dieu ne réponde pas à mon besoin maintenant, qu'il ne me sorte pas de la difficulté que j'endure depuis si longtemps maintenant. Encore une fois, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et si nous ne comprenons pas cela, notre incompréhension, elle peut se changer en colère ou en amertume. Et en fait, on entre petit à petit en rébellion avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Je vois grosso modo deux possibilités. Soit on est en train d'admettre implicitement que nous, moi, je sais mieux que Dieu ce qui est bon ou pas, ce qu'il devrait faire ou pas faire. Et ça s'appelle manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc péché fondamental de la Genèse, ni plus ni moins. Et en faisant ça, ben Jésus n'est plus notre Seigneur. Puisque c'est nous qui savons ce qui est bon. Nous ne sommes plus soumis à Dieu, nous dénions à Jésus le fait d'être notre Seigneur. Mais il peut y avoir un autre travers. Si notre incompréhension se change en colère, en amertume, peut-être que nous pouvons en arriver à considérer que Dieu nous a oubliés ou que nous ne sommes plus dignes de ses bénédictions. C'est un tout autre état d'esprit, c'est plus subtil, mais là encore, si je reviens à la Genèse, c'est comme si nous laissons le serpent susurrer à notre oreille. Dieu a-t-il réellement dit ? Et le doute s'installe. Et nous nous pensons abandonnés de Dieu, et cette fois-ci, nous dénions à Jésus le fait d'être notre Sauveur. Dans un cas, nous lui dénions le fait d'être notre Seigneur, celui qui règne dans notre vie, et dans l'autre cas, nous lui dénions le fait d'être notre Sauveur, c'est-à-dire celui qui vient nous chercher dans notre condition et qui nous restaure. Mais Dieu est bon. Il est plein de compassion à notre égard. Et malgré nos phases de colère et de doute, hein, qui arrivent à tout le monde, qui sont malgré tout bien normales, Dieu reste fidèle. Et c'est souvent après coup, lorsqu'on se retourne, on comprend pourquoi Dieu nous a fait attendre, pourquoi Dieu nous a empêchés peut-être, nous a contrariés. On réalise qu'il était nécessaire que d'autres événements adviennent pour que notre cœur soit vraiment prêt à recevoir pleinement le cadeau que Dieu veut nous donner. Et ça, c'est un principe biblique qu'on retrouve à plusieurs reprises. Et je vais prendre juste un exemple qui me paraît le plus évident, c'est l'attente du peuple hébreu pour la terre promise. Tout ça, c'est rappelé par Moïse au début du Deutéronome. Ils arrivaient à la terre promise, elle était devant eux. Ils envoyaient des explorateurs, des éclaireurs pour voir cette terre et ce qu'elle contenait. Mais en fait, ils n'ont pas eu la foi de passer le cap. Ils n'ont pas eu la foi de se dire que ça y est, c'était le moment. Et la fenêtre s'est refermée. Dieu leur a dit, bah, puisque vous n'êtes pas prêts, retournez dans le désert. Le temps qu'une nouvelle génération se lève, une nouvelle génération, le temps que la génération rebelle soit remplacée. Et l'attente a été longue et difficile. Mais je pense que cet exemple nous montre aussi un enseignement, c'est que très souvent, c'est nous-mêmes l'obstacle à la réalisation du plan de Dieu pour nous. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, et des fois, c'est nous qui amenons Dieu à retarder ses bénédictions, puisque nous faisons obstacle, comme cet exemple avec le peuple hébreu nous le montre. 40 ans, c'est pas rien quand même. Hein. Et finalement, la première génération qui a vu la terre promise n'y est pas rentrée. Alors soyons vigilants et transformons notre amertume en prière. Dieu nous fait attendre ou quand nous avons l'impression que Dieu ne répond pas, je vous invite à prier. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi dans cette difficulté, dans cette attente, en réalité, ce que tu veux que je change pour que ta volonté puisse s'accomplir pleinement. Dieu, il est aussi impatient que nous puissions profiter de ses bénédictions. Alors, ne faisons pas obstacle à sa volonté. Mais pour revenir à notre récit, cette fois-ci, c'est le moment. Cette fois-ci, Jésus se dévoile et on peut comprendre maintenant pourquoi il a attendu. Je veux dire par là qu'on a parlé de Pâques en introduction, et le fait d'être acclamé comme roi juste à quelques jours de Pâques, à quelques jours des épisodes de la crucifixion et de la résurrection, dans un unique séjour à Jérusalem, ça fait que cette entrée triomphale, elle est indissociable de la croix. On ne peut pas séparer les deux événements, ça fait une unité. Le Messie et le roi qui est acclamé par la foule sera aussi celui qui se trouvera crucifié comme un malfaiteur peu de temps après. Avec la temporalité de l'Évangile, la proclamation, la reconnaissance publique que Jésus est le Messie ne se trouve pas associée à un miracle ou à un coup d'éclat, elle est concomitante de sa mort et de sa résurrection. Et ça, c'est vraiment très important. Jésus est véritablement le Messie annoncé, le Fils de Dieu venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous l'avons lu il y a peu de temps, au chapitre 10, juste avant. Je le redis, la reconnaissance publique de la royauté est indissociable de la croix, à tel point, elle marquera tellement les esprits que finalement elle se retrouvera matérialisée en haut de la croix avec cet écriteau « Le roi des Juifs », « Jésus, le roi des Juifs ». On nous dit même que c'est traduit en plusieurs langues. Et c'est vraiment à la croix que Jésus devient pleinement roi. Et j'avais choisi comme titre à ce message « Jésus casse les codes ». Nous en avons un premier là. Quel couronnement que de mourir crucifié. Alors, je voudrais vous dire aussi que les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres. La temporalité, des fois, elle nous paraît déconcertante, mais ce texte montre aussi comment Dieu il agit différemment de ce qu'on ferait en tant qu'humain. Là aussi, Jésus casse les codes. Il entre à Jérusalem par une entrée qui, j'ai mis, il n'en impose pas. Jésus, il n'arrive pas sur un cheval, comme une toute personnalité importante qui se respecte. Je vous ai mis une petite image de Napoléon ici. Le cheval, c'est le symbole de la puissance, de la richesse, du prestige. Et dans la Bible, le cheval, il est très souvent associé à la guerre, au pouvoir militaire. L'âne, au contraire, c'est un animal indigne, qui est utilisé pour les tâches ingrates, fatigantes, répétitives. C'est tout l'inverse du prestige, et c'est très loin d'un instrument de guerre. Et comme si le symbole n'était pas suffisamment fort, le texte nous dit que ce n'est même pas un animal adulte. C'est même pas un âne, c'est un ânon. Donc ça veut dire que l'animal en question, il n'est même pas en âge de travailler, a priori. Il est donc improductif, il est inutile, j'oserais même dire ridicule. C'est tout l'inverse d'un symbole de puissance. Et puis, si on va dans le détail, on voit que Jésus, il n'est même pas propriétaire de cet âne. Il l'a emprunté. Ça apparaît comme un détail, mais si on est honnête, Est-ce qu'on imagine un seul instant un général victorieux faire une entrée triomphale sur un animal de près ? Marqué « Louez-moi » sur l'arrière. Bien sûr que non. Et puis, vous l'aurez noté aussi, cet âne, il n'est pas équipé pour être monté. Il n'y a pas de selle, pas de mors. Et ce sont simplement les vêtements des disciples qui vont servir d'assises à Jésus. On est très loin, là, d'un signe de richesse. Tout l'inverse du prestige, tout l'inverse de la puissance, tout l'inverse de la richesse. Quel contraste ça donne avec la manière dont sont traités les personnages importants. Pensez à nos chefs d'État, pensez même aux grands chefs d'entreprise, ou même aux chefs religieux, y compris chrétiens. Mais, comme ce verset de Corinthiens nous le rappelle, ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse tirer quelque fierté devant Dieu. Et pourtant, cette entrée dans Jérusalem, tout bizarre qu'elle soit, peut-être, tout déconcertante qu'elle soit, elle n'en reste pas moins prophétique. Parce que dans ce geste, Jésus, ce n'est pas une fantaisie dont il fait preuve. Ce protocole incongru accomplit en réalité une prophétie. La prophétie de Zacharie 9:9, je vous la lis, elle est à l'écran. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, j'ai pas lu exactement la même traduction. Ici, les chevaux de Jérusalem. Il y a une opposition très claire ici entre les ânes et les chevaux, entre ce roi de paix et toutes ces dominations qui invitent à la guerre dans le monde. Donc on l'a vu, cette entrée a une portée symbolique très forte qui nous parle encore aujourd'hui, mais c'est aussi un signe pour les juifs de l'époque. Parce que cette scène si particulière, dans l'esprit du peuple qui connaît les textes prophétiques, ça les laisse évidemment pas indifférents. Probablement que ça a résonné quand même beaucoup dans l'esprit des juifs de l'époque. Et moi, ce que j'aime vraiment avec ce signe que Dieu a choisi, c'est qu'il combine trois grandes qualités. C'est un signe qui parle déjà en lui-même. Vous le faites lire à un enfant, il comprend le contraste de cette entrée de Jésus à Jérusalem avec n'importe quelle mise en scène d'un puissant à quelque époque que ce soit. Donc il parle en lui-même de la réalité de notre Dieu qui va à l'encontre de notre logique de puissance humaine. Et puis il est suffisamment inhabituel et étrange pour qu'on le remarque, ce signe. Il n'y a pas d'erreur possible. Personne ne monte un ânon. On monte un âne éventuellement, mais ça a peu de chances d'arriver par hasard. Donc ce signe, il est fait pour être facilement identifié. Et troisième point qui je trouve intéressant, ce signe, il est difficile à usurper. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se faire passer pour le Messie, qui voudrait dire c'est moi, est-ce que vraiment il oserait se prêter à cet exercice-là ? J'en doute. C'est quand même très osé. Alors, nous avons vu que le plan de Dieu, souvent il y a une temporalité qui n'est pas la nôtre, des méthodes qui ne sont pas la nôtre, mais quand Dieu prépare les choses, tout est parfait. Et ça, ce texte nous le montre aussi. Quand Dieu est à l'initiative, tout s'enchaîne à la perfection. Jésus donne quelques indications et tout se passe exactement comme annoncé. Et je me dis que les disciples, ils ont dû en être quand même émerveillés. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi le propriétaire, il laisse partir l'âne. Je vois deux explications possibles. Soit Jésus, il a quelques relations, c'est fort possible, et il avait convenu la chose à l'avance, il était allé voir la personne en disant « J'aurai besoin de ton âne un peu plus tard, merci de me le garder. » Et ça, c'est vraisemblable, parce que c'est comme ça que ça se passe pour le repas de la Pâque un peu plus tard. Je lis pas tout le passage, mais les disciples se demandent où vont célébrer la Pâque, et Jésus leur donne des instructions extrêmement claires, et au verset 16 du chapitre 14, on nous dit « Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » Donc, Jésus prépare logistiquement les choses aussi en coulisses, puisque ça ne nous est pas raconté directement. Mais, un point qui me paraît très important aussi, c'est de noter que Jésus dit « Vous répondrez, le Seigneur en a besoin ». Et cette expression « le Seigneur », c'est le seul endroit de l'Évangile, le seul endroit de tout le Nouveau Testament où ce titre est employé pour Jésus. On a l'habitude de le voir dans l'Ancien Testament, mais ce titre, d'habitude, il est réservé à Dieu, ou pour désigner le Messie roi qui va venir. Mais là, c'est vraiment... Enfin, c'est le seul endroit où on le voit dans le Nouveau Testament, donc ce n'est pas innocent. Et ça tend à rappeler que Jésus, il a autorité sur toute chose, au point que la simple évocation de son titre ouvre des portes. Je vous cite Jérémie 10, verset 6. « Nul n'est semblable à toi, Seigneur, tu es grand, et ton nom est grand par sa puissance. » Donc, bon, il y a peut-être les deux hypothèses sont valides, j'ai pas envie de trancher entre l'une ou l'autre, mais retenons que lorsque le moment est venu, le plan de Dieu s'accomplit. Soit parce que ça a été méticuleusement préparé, soit parce que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de faire des actions un peu surnaturelles, mais les deux options pointent vers la même vérité, Dieu est souverain. Tout s'accomplit, comme Jésus l'a dit, à l'échelle de quelques heures. Mais tout va s'accomplir, comme Jésus l'a dit aussi, concernant sa mise à mort et sa résurrection, à l'échelle de quelques jours. Et tout s'accomplit également, selon la parole, à l'échelle de plusieurs siècles, puisque nous voyons les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir. À tous les niveaux, la volonté de Dieu s'accomplit. Quand Dieu a préparé les choses, tout est parfait. Et j'ai envie de vous poser la question, frères et sœurs, est-ce que vous l'avez déjà vécu ? Est-ce que vous avez déjà vécu ces moments où vous réalisez que tous les éléments s'alignent parfaitement pour que le plan de Dieu s'accomplisse? Est-ce que vous avez déjà expérimenté comment à travers un petit événement, en apparence anodine, Dieu y répond à plusieurs questions d'un coup, comme une pièce du puzzle qui s'ajuste parfaitement dans le tableau de nos vies? C'est à mon sens une des signatures de l'action de Dieu. C'est complet, c'est parfait, et ça va au-delà de nos espérances. Dieu ne fait pas dans la demi-mesure, et gloire lui soit rendue. Et cela m'amène, s'il reste encore un peu de temps, à aborder la question de la souveraineté de Dieu que nous venons d'esquisser. Parce que le plan de Dieu, il s'accomplit que nous le suivions ou non. On voit les disciples qui suivent les instructions de Jésus et tout se passe bien. Oui, le plan de Dieu s'exécute à la perfection avec leur concours. Ils ont eu la chance d'entendre distinctement les consignes, puisque Jésus leur a donné de vive voix. Ils les ont suivis. On pourrait se dire qu'ils n'ont pas beaucoup de mérite, parce que dans ces conditions, c'est facile de faire la volonté de Dieu. Mais pourtant, ils étaient probablement quand même très effrayés de ce qui les attendait à Jérusalem, parce que Jésus les avait prévenus. Et je pense qu'ils n'avaient pas forcément très envie de faciliter les choses. Si je reviens sur Marc 10, encore une fois, je ne lis pas tout le passage, mais Jésus leur annonce pour la troisième fois ce qui va se passer à Jérusalem, et on nous dit qu'ils étaient effrayés. Mais malgré cette crainte, malgré sachant ce qui les attend, Jésus dit « Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront, et trois jours après, il ressuscitera. » Je pense que vraiment les disciples, ils n'avaient pas envie d'y aller. Enfin, moi, à leur place, j'aurais pas envie d'y aller, et pourtant, ils obéissent à ces consignes de Jésus. Et je pense que là, il y a aussi un enseignement pour nous. Suivre Jésus, ça commence par lui obéir dans les petites choses. C'est pas grand-chose d'aller chercher cette âne, mais Jésus leur a demandé, et ils ont obéi. Est-ce que nous, on sait entendre les directives de Jésus? Nous avons vu que le temps et la méthode de Dieu ne sont pas les nôtres, donc ça signifie que la plupart du temps, ce qu'il attend de nous, c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu, c'est pas forcément ce qu'on aurait projeté humainement. Et c'est là que ça se complique. Parce que, oui, les disciples, ils ont su exécuter les instructions pratico-pratiques, mais est-ce qu'ils ont vraiment pris au sérieux les annonces de la Passion? Ça leur a fait peur, mais quand même, je pense que ça a été difficile à avaler pour eux. Ce que Jésus leur a annoncé, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient entendre. Mettons-nous à leur place, ça fait 3 ans qu'ils accompagnent Jésus, qu'ils l'aiment au point d'avoir tout quitté pour lui. Ça fait 3 ans qu'ils voient les merveilles qu'il accomplit, qu'ils y prennent part, et ils ont même le beau rôle. Et maintenant, il faudrait que Jésus meure. Impossible. Inimaginable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette incapacité à accepter la mort de Jésus les empêchera aussi de retenir l'essentiel de ce que Jésus a dit, c'est que 3 jours après, il ressuscitera. Et là encore, je pense qu'il y a une leçon pour nous. Si nous ne sommes pas capables d'entendre ce que Dieu a à nous dire de désagréable, probablement nous ne sommes pas non plus capables d'entendre les promesses et les bénédictions qu'il a pour nous. Il faut arriver à tenir les deux ensemble, à être capable d'entendre ce qui est douloureux, ce qui nous bouleverse, ce qui nous bouscule et qu'on n'a pas envie d'entendre, pour pouvoir aussi entendre, accepter, avoir confiance, l'espérance des bénédictions qui arrivent après. Alors, il faut qu'on dise un mot de la foule quand même. Cette foule qui accompagne l'entrée de Jésus, qu'en est-il pour elle ? Est-ce qu'elle a compris ce qu'elle faisait ? Est-ce qu'elle a compris ce qui était en train de se jouer ? On nous dit, ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Est-ce qu'elle a su lire le signe de l'annon du prophète Zacharie ? Moi je crois que oui. Je crois qu'elle a reconnu Jésus vraiment comme le Messie annoncé, ses paroles le montrent assez clairement. Mais, quelques jours plus tard, vous le savez, on entendra cette même foule crier « Crucifie-le ! » Comment un tel renversement est possible ? Eh bien, nous le savons, il est très facile de manipuler une foule. Elle est généralement gagnée par l'émotion, et il y a l'effet de groupe qui amène à plus du tout réfléchir par soi-même. Et c'est ce qui se passera au chapitre 15. Les grands prêtres excitèrent la foule. Il y a vraiment une intention de manipuler la foule. Ça doit nous alerter et nous inviter à toujours nous tenir à distance des masses quand elles parlent d'une seule voix, même quand elles proclament Jésus comme le Messie. Ça peut être, quand je parle des masses, ça peut être un rassemblement de personnes quand vous êtes pris dans un groupe, dans un stade de foot, et voilà. Mais ça peut être aussi une foule virtuelle, les masses que composent certains groupes sur les réseaux sociaux, ou l'environnement dans lequel on est, où on pense tous la même chose parce que c'est plus commode comme ça. Méfions-nous des masses qui parlent d'une seule voix. Si ces personnes ont pu vivre un tel retournement, c'est parce qu'elles se sont laissées emporter par le mouvement de foule. Mais c'est aussi parce que leur croyance en Jésus le Messie, elle est superficielle, elle est erronée. Ils attendaient un certain type de Messie, oui, ils ont reconnu Jésus comme un Messie, mais vraiment le Messie auquel nous croyons, c'est pas si sûr. Ils attendaient un descendant de David, ce que Jésus est, mais qui mettrait fin à l'oppression romaine en rétablissant la pleine liberté de culte pour les Juifs. Or, que va faire Jésus après son entrée à Jérusalem ? Il va chasser les marchands du temple. C'est le passage juste après. Il va annoncer la ruine du temple. Il va tenir tête aux pharisiens à plusieurs reprises. Et quand on va lui poser la question de l'impôt à César, quand même pas rien dans le régime oppressif qui est en place, il ne va pas aller contre. Là encore, Jésus a vraiment cassé les codes, en allant à l'encontre de toutes les idées que se faisaient les Juifs, de ce qui devait être leur Messie. Et là, à nouveau, ça nous pose la question à nous, frères et sœurs, quelles sont nos fausses conceptions de Jésus, de Dieu ? C'est facile de pointer la foule en se disant « ils se sont trompés, ils étaient dans une logique qui n'était pas la nôtre », mais déjà, cette logique à l'œuvre dans la foule, elle est encore très à l'œuvre aujourd'hui. Combien de personnes dans le monde, et on peut penser aux États-Unis aussi, attendent un retour messianique avec un royaume terrestre ? Et pour plus personnellement, qu'est-ce qui, en nous, est mal ajusté ? Quelles sont les croyances, les conceptions qu'on a qui sont un peu tordues et qui permettent à l'adversaire de nous retourner notre cœur contre Dieu, comme les religieux l'ont fait avec cette foule ? Si on dit que Dieu est puissant, quel est l'imaginaire que nous avons en tête ? Eh bien, pensons à cette entrée à Jérusalem. Pensons à cette entrée à Jérusalem et demandons à Jésus de se révéler, non pas tel que nous pensons qu'il est, mais tel que nous voulons qu'il soit. mais tel qu'il est vraiment. Et on sera probablement souvent surpris. Nous parlions, j'étais parti pour vous parler de la souveraineté de Dieu, et je n'ai pas oublié cet objectif. La foule, elle a semble-t-il pas tout compris. Elle a semble-t-il des conceptions théologiques qui sont pas du tout les bonnes par rapport au caractère messianique de Jésus. Et en même temps, elle pouvait guère faire autrement parce que, ben, précisément, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Et pourtant, malgré ces conceptions qui n'étaient pas les bonnes, Dieu, il a utilisé ce moment de liesse et d'acclamation. Ce moment faisait parfaitement partie du plan de Dieu. Le déroulé des événements que Jésus a annoncé, comme on a cité tout à l'heure, il va suivre son cours malgré tout. Et oui, oui, Jésus, il est bien le Messie annoncé, il est bien celui qui vient, comme la foule le proclame, il est bien le roi, oui. Cette proclamation, elle est vraie, elle a résonné dans les rues de Jérusalem il y a 2000 ans, et elle est encore la nôtre aujourd'hui, et elle le sera pour l'éternité. Mais nous croyons en un roi qui est monté sur un ânon, qui est humble et pauvre, comme l'annonçait Zacharie. Nous croyons en un roi qui est serviteur, qui lave les pieds de ses disciples, qui prend soin des marginaux, des pauvres, des malades, qui a connu la solitude, qui a connu la détresse, qui a connu la haine, la souffrance. Un roi qui refuse de répondre à l'injure. Pensez à une personnalité aux cheveux orange. Un roi qui refuse de répondre à l'injure. Qui accepte les outrages et qui subit l'injustice par amour. Un roi crucifié comme un malfaiteur, un roi rejeté par les puissants et les sages de son temps. Et ça, Paul l'a bien résumé dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 22. Les Juifs demandent des signes, les Grecs, donc les non-Juifs, recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, donc pour nous, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. J'ai fait une allusion à peine voilée à Trump, mais je crois que c'est vraiment très actuel. Quand nous voyons Trump se présenter comme un messie et traiter le pape de faible parce qu'il appelle à la paix, mais on n'est pas sur une différence d'interprétation des textes. On est sur une conception absolument contraire à la logique de l'évangile. Et il faut en être conscient, il faut le dénoncer. Alors pour terminer, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une place à prendre dans le plan de Dieu. On n'est pas des automates, on n'est pas des robots, et même si Dieu a tout prévu, il nous laisse toujours la liberté de nous engager à sa suite ou non. Mais sachons que, avec ou sans notre concours, soyons certains que sa volonté s'accomplira quoi qu'il arrive. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais, de fait, notre obéissance, elle n'est pas contrainte, puisqu'on reste libre de désobéir. Et elle n'est pas non plus nécessaire, puisque le plan de Dieu s'accomplira quoi qu'il arrive. Et ça, dire que notre contribution n'est pas nécessaire, c'est juste rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. Mais donc, notre obéissance, elle devient un acte d'amour, puisque nous sachant aimer de Dieu, ben, naturellement, nous voulons faire ce qui lui plaît. Les disciples, ils sont allés chercher l'ânon, sans doute pour faire plaisir à Jésus, par obéissance, mais parce que c'est ce que Jésus leur demandait. Mais obéir, c'est aussi une manière d'être à notre place. Nous sommes ses créatures. C'est lui qui est souverain. Et comme l'argile dans les mains du potier, nous reconnaissons que nous sommes limités, que nous ne savons pas tout, et que c'est lui qui règne. Alors cela nécessite de nous mettre à l'écoute, d'accepter d'être remis en place et d'être contrarié, d'avoir des prières dont la réponse n'arrive pas le lendemain, n'arrive pas de la manière dont on l'attend, n'arrive pas non plus dans la temporalité qu'on s'était projeté. Et maintenant, je voudrais vous demander de penser à quelque chose que vous avez réussi à faire. Je ne sais pas, c'était les vacances, peut-être que vous avez fixé une étagère chez vous, peut-être que vous avez fait des super plantations au jardin, vous êtes très fier de vous, ou peut-être un accomplissement plus grand, quelque chose que dans votre vie, vous êtes fier d'avoir accompli. Pensez à cette chose, qu'elle soit petite ou grande, et mesurez le sentiment d'accomplissement que vous en retirez, la fierté que ça vous donne. C'est quelque chose que j'essaye de cultiver avec les étudiants, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément toujours vécu ça. Ils n'ont pas toujours eu la force d'opiniâtreté d'aller au bout d'un projet et de mesurer à quel point c'est satisfaisant de se dire « j'ai réussi à faire ça ». Vous voyez à peu près ce sentiment dont je veux parler ? C'est satisfaisant. Eh bien, j'ai envie et à cœur de vous témoigner ou de vous rappeler que ce sentiment-là, si satisfaisant qu'il soit, il n'a rien à voir avec le bonheur et la joie de constater au contraire que nous ne sommes pour rien dans ce qui se déroule et que c'est Dieu qui a tout fait. J'insiste là-dessus et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu, constaté, quand tout d'un coup le plan de Dieu se déroule sous nos yeux, qu'on a fait peut-être un petit quelque chose, mais on se rend bien compte que c'est lui qui a tout fait, le sentiment n'a rien à voir avec le sentiment d'accomplissement qu'on trouve dans quelque chose qu'on a accompli par nos propres forces. Car c'est Dieu qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Un verset qu'on a cité souvent ici dans cette église, et je crois qu'une des clés est là. Ce n'est pas à nous d'accomplir par nos forces des œuvres incroyables, juste nous laisser guider dans les petites choses que Dieu, petites ou grandes choses, mais en tout cas les choses à notre mesure que Dieu a prévues pour nous. Et oula, il faut vraiment terminer. Je vous promets, là c'est mon dernier paragraphe. Je veux rappeler qu'à travers ce texte, on a quand même vraiment l'image très claire d'une royauté, comme le dira Jésus lui-même devant ceux qui l'accusent. Ma royauté n'est pas de ce monde. La foule, elle attendait un roi terrestre. Un roi qui établisse un royaume humain, Jésus n'en veut pas. Combien de chrétiens, encore aujourd'hui, attendent que Jésus instaure ou impose un royaume de paix ? Quand nous prions pour la paix, qu'avons-nous en tête ? Est-ce qu'on attend que Jésus descende et puis dise « aimez-vous les uns les autres » et c'est comme ça, tout va bien se passer ? Peut-être on peut penser à cette idée du millénium qui traverse un certain nombre de milieux chrétiens et avec un certain nombre de conceptions sur une paix qui s'imposerait pour 1000 ans. Je tiens à le rappeler, c'est dans les cœurs que Jésus règne. C'est invisible, c'est indicible, et c'est frustrant, comme beaucoup de choses, c'est frustrant. Mais comme du levain qui fait lever toute la pâte, ou comme un peu de sel qui relève toute la saveur du plat, c'est une fois que les cœurs sont touchés, c'est une fois que les vies sont transformées, alors seulement le monde peut commencer à changer vraiment. Et c'est ce que nous observons dans les mouvements de réveil à travers l'histoire. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. C'est toujours étonnant de voir à quel point ça commence par les cœurs. Les cœurs. Des gens qui se tournent vers Dieu, qui se sentent misérables devant lui, qui demandent le pardon de Dieu. Et il en découle des choses vraiment merveilleuses. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On s'évertue à inventer des systèmes politiques, à mener des croisades contre tel ou tel courant idéologique, à se dire que nous allons par nos moyens, instaurer une société plus vivable, un royaume de paix, en oubliant, souvent, et je le prends vraiment pour moi-même, que c'est dans les cœurs que s'opère la révolution de Christ. C'est dans notre faiblesse qu'on reconnaît humblement comme tel, « Oui, Seigneur, je suis faible », que Dieu peut agir. En silence, en souterrain, patiemment. Mais un jour, frères et sœurs, oui, un jour, le moment sera venu, dans la temporalité de Dieu. L'heure de son retour en gloire sonnera. Et là, ce sera tout différent. Amen.